Annie de Peine, confidence de femme. Textes 26 à 29.
Vieille fille. Les demoiselles vicaires habitaient sur la place de la mairie, juste en face de l'auberge du Cheval Blanc, une maison longue, basse et grise, qui, avec ses rideaux de percaline blanche soigneusement clos, ressemblait à un presbytère. Les demoiselles vicaires n'avaient pas d'âge, et parfois, on eût dit qu'elles n'avaient pas non plus de visage. L'aînée surtout, prénommée Ismérie. Le ton grisaille de sa robe, de ses yeux, de ses cheveux, de son fichu de laine dont elle ramenait une pointe sur la tête, se fondait si bien avec le gris jaune de sa peau que seul l'ensemble demeurait au souvenir. La cadette, Célinie, était de la même couleur, mais lorsque ses petits yeux fixaient un point où l'on ne distinguait rien, leur expression devenait presque jolie. Depuis la mort de leurs parents, il y avait bien 15 ans de cela, Ismérie s'était instituée chef de famille. Le verbe haut, le geste impérieux, c'est elle qui décidait, ordonnait, et bien que la différence d'âge entre elle et sa sœur ne fût guère sensible, elle traitait celle-ci en fillette qui avait encore grand besoin d'être dirigée. Si un régiment passait, si des buveurs bruyants s'attroupaient devant l'auberge, si un chien lutinait une chienne sur la place, vite, Ismérie rappelait à l'ordre Célinie, toujours prête à risquer un œil par le coin du rideau. « Ne regarde donc pas ça, il n'y a que les effrontés qui se mettent aux fenêtres. » Et docilement, comme une petite fille obéissante, Célinie détournait la tête. Bien qu'ayant seulement de toutes petites rentes, outre la maison dont elle jouissait, les demoiselles vicaires comptaient parmi les notabilités de la petite ville. Avec la veuve du notaire et la femme du docteur, elles en représentaient même l'élite intellectuelle. Songez, en compte commun, les quatre dames étaient abonnées à un grand journal politique, littéraire, mondain et bien pensant, naturellement, de Paris. Comme de juste, l'ex-notairesse qui payait 2 francs de plus par an lisait le journal la première. Après quoi, elle le passait à la femme du docteur, laquelle, s'en étant délectée, le tenait à la disposition des demoiselles vicaires, qui, en compensation de l'attente, pouvaient le garder en toute propriété. L'un des principaux attraits du journal pour ces dames était chaque lundi la chronique de la mode, rédigée par Hermance d'Ambreville, un nom qui les impressionnait. Ah, qu'elle prisait donc ses conseils à cette Hermance d'Ambreville, si parfaitement renseignée sur toutes les petites questions qui intéressent les femmes. Et comme avec elle, elle se sentait en complète communion de principes. Il fallait voir de quelle plume sévère elle tançait les modes excentriques, avec quelle virulence elle s'était insurgée contre ces horreurs de jupes collantes et fendues. Oui, avait-elle proclamé, c'est une honte de penser que des femmes, comme il faut, ne se révoltent pas devant ces ajustements, qui, en marquant la décadence de nos mœurs, sont une véritable offense à la pudeur. Comment, dans leur touchante candeur, ces dames auraient-elles pu soupçonner que le journalisme mercantile transforme le signataire d'un article en une espèce de caméléon dont les nuances varient au gré des feuilles? En même temps qu'elle était Hermance d'Ambreville, dans un grave journal, la chroniqueuse de mode paraffait d'un pimpant frimoussette les fanfreluches qu'elle décrivait dans le plus boulevardier de nos grands journaux. « Vive la mode nouvelle » s'écriait-elle ici, et ce dans le fameux style consacré. « Vive la mode exquise qui nous silhouette de si délicieuses manières. Enfin, nous les montrons nos jolies jambes gainées de soie. Nous les montrons par la haute fente, si drôlement aguicheuse, si troublante, de la jupe. Et cet attrait de plus ajouté à notre séduction, nous le devons au délicat artiste, au grand maître escouture, à l'incomparable, au génial, ici un nom de couturier. Au demeurant, Frimoussette n'était pas plus sincère qu'Hermance d'Ambreville. En réalité, de la mode et de ses caprices, elle se fichait. Si elle en discourait avec tant d'éloquence, c'était pour boucler son budget de femme de lettres, dont le nom, le vrai, était estimé par ailleurs, mais que la littérature, hélas, ne suffisait pas à nourrir. Depuis longtemps, la petite correspondance de la mode rendait Cellini songeuse. Voilà, elle brûlait d'envie d'y lire un jour une réponse à elle adressée sous un de ses noms si gracieux. Elle hésitait entre Pervenche ou Reine des Prés, ou... Mais à force de ruminer, une idée soudaine lui traversa l'esprit, et son cœur se mit à battre à grands coups. Ses jambes fléchirent, au point qu'elle dut s'asseoir, une bouffée de chaleur empourpra ses joues. Si elle signait, oh oui, si elle signait, une fiancée, et qu'elle demanda par exemple... Quelle robe devait porter une mariée, demoiselle de 38 ans? Deux jours durant, elle fut si terriblement hantée par cette obsession que le troisième, elle n'eut pas la force de résister. Elle écrivit, et, usant de ruse pour ne pas être vue, elle courut jeter sa lettre à la boîte. 15 jours après, en ouvrant, ah mon Dieu, j'allais nommer le journal! Elle eut un éblouissement. Là, en lettres phosphorescentes, lui semblait-il, elle lut « Une fiancée. Choisissez une charmeuse qu'ensuite vous pourrez faire teindre. Jupe unie, traîne demi-longue, corsage blousé légèrement, avec à la ceinture bouquet de fleurs d'oranger entr'ouvertes. » Et dans l'esprit de Cellini, il se passa ceci d'extraordinaire, c'est que soudain, elle se crut fiancée pour de vrai. Au déjeuner, sa sœur la vit métamorphosée, ses yeux brillaient, ses lèvres étaient humides, elle jacassait, riait à tort et à travers, et puis tout d'un coup, elle faillit se trouver mal. Après lui avoir fait respirer du vinaigre, Isméri lui déclara « C'est le printemps, il faut te purger. » Et pour la première fois, Cellini contempla sa sœur avec un peu de pitié. Un mois, la demi-vieille fille émerveillée vécut son rêve enchanté, et puis elle retomba dans une vague mélancolie. Alors de nouveau, elle écrivit. Elle écrivit chaque fois qu'elle ressentait un besoin de fortifier ses illusions. Tour à tour, de mois en mois, elle fut une jeune mariée, demandant quelle robe porter pour le voyage de noces, une épouse coquette, désireuse d'être renseignée sur la toilette à choisir pour les visites, et encore une nouvelle mariée, indécise sur le cadeau à faire à son mari à l'occasion de sa fête. Régulièrement, les réponses lui parvenaient. Hermance d'Ambreville savait que les abonnés d'un journal bien pensant, les autres aussi, sont sacrés et qu'il ne faut pas les mécontenter. Et pendant qu'elle y était, Cellini voulut que son union fût bénie par le ciel. Un jour, en rougissant jusqu'aux oreilles, elle écrivit « Quelle robe d'intérieur doit porter une future jeune maman ?» Or, à ce moment, Hermance d'Ambreville, Frimoussette, était plongée dans la correction des épreuves de son roman, ce qui l'intéressait autrement que la mode et les questions d'électrice. Étourdiment, elle mélangea la correspondance du journal bien pensant avec le courrier du journal frivole. Justement, dans celui-là, Une lectrice demandait s'il n'y avait pas un moyen de n'être pas tout de suite maman. On n'imagine pas tout ce qu'on demande aux chroniqueuses de mode. Frimoussette griffonna hâtivement. Mais oui, parlez-en franchement à votre mari. Il comprendra bien que l'enfant ne se porte plus avec les robes actuelles. Les femmes ont tout de même autre chose à faire dans la vie que de faire des enfants. » Et elle plaça cette réponse à l'adresse d'une future maman. Comme au journal, on était sûr d'elle, on ne vérifiait pas sa copie. Ce fut donc imprimé tel quel. Ce lundi, le journal n'était pas arrivé depuis une heure chez la notairesse que déjà la respectable dame avait bondi chez la femme du docteur et toutes deux étaient accourues chez les demoiselles vicaires. Ces dames, violettes d'indignation, parlaient toutes à la fois. « C'est trop fort! Alors c'est ça le changement qu'on nous annonçait! Un compte toutes les semaines, augmentation des rubriques, modification du format. C'est bien simple, ce journal, jadis si bien, devient une feuille immonde. Et cette Hermance d'Ambreville, cette créature éhontée, croyez-vous? C'est net. Tout de suite, nous allons écrire au directeur que non seulement nous ne renouvelons pas notre abonnement, mais que nous défendons qu'on nous envoie cette ordure à partir d'aujourd'hui. En attendant, brûlons celle-ci. » Seule Céline se taisait. Quand les braillardes se furent dispersées, elle monta s'enfermer dans sa chambre et, effondrée dans le Voltaire de reps rouge clouté d'or, elle pleura longtemps sur son mariage brisé, sur son enfant mort, sur sa vie lamentable, sans espoir et sans but désormais.
Homme. C'est un très grand artiste. Ses portraits, d'une facture admirable, sont brossés sans concession à la flatterie. Tant pis pour ceux qui ont le nez camard, un deuxième menton naissant. Tant pis pour la jeune vieille femme, blonde comme un bébé, et peinture lurée au naturel, en rose tendre, en rouge vif, en mauve, en bleu. On dirait un bonbon fondant de l'année dernière. Tant pis. Devant les portraits de Serval, si criants de naturel, on demeure saisi. Il semble que les lèvres frémissent, que les mots vont jaillir, qu'un bras se soulève pour un geste familier. Sa gloire, voilà une huitaine d'années, fut soudaine. Beaucoup plus tôt, probablement, son talent avait été remarqué, mais en sourdine, car pour s'imposer, il lui manquait l'art de l'intrigue. Jamais il n'eut consenti à quémander un article, à faire une démarche pour qu'on parlât de lui. Quant aux bienfaits du communiqué, il les ignora ou les dédaigna toujours. Lorsqu'eut lieu cette première exposition, qui le mit si brillamment en lumière, Gilberte, sans le lui dire, courut les rédactions, fit insérer des notes. Les critiques, prévenues, harcelées par elle, se dérangèrent et, devant la beauté des œuvres exposées, il leur fallut bien s'émouvoir et rendre hommage au génie de l'auteur. Mais avait-elle dû se démener? Lui, qui n'admettait pas les sollicitations, qu'eût-il dit s'il l'eût vu, attendant, résigné, durant des heures, dans les antichambres de revues de magazines, de journaux? Et ses reproductions de son fameux tableau, le béquillard, vulgarisé depuis par des milliers de cartes postales répandues dans le monde entier, que de mal elle avait eu naguère pour obtenir d'un directeur de revue qu'il publiait à la photographie de la toile. Mais qu'importait sa peine? Elle l'aimait et l'admirait tant, son génial amant. Gilberte est aussi une artiste, mais on ne saurait établir de comparaison entre ses menus croquis aimables, gentils sans doute, et la belle peinture vigoureuse de Serval. Pourtant, elle a de la chance. Sa manière plaît. Elle a un public. On parle d'elle. Elle détient une de ces glorioles parisiennes qui éblouissent les profanes. Ses images se vendent. Et de son succès subit, elle s'étonne comme d'un miracle. Avec un plaisir enfantin, elle brandit les journaux, les coupures. « Oh, regarde, toute une colonne de machins. Tu sais, c'était pas temps d'avoir un article de machin. »
À peine Serval daigne-t-il y jeter les yeux.
Puis, brusquement, il devient morose, fébrile. Il se plaint de la vie, de son travail qui vient avec difficulté. Quelques jours, il tombera à bout. On dirait qu'il éprouve un plaisir sournois à gâter sa joie. Dépitée, elle riposte. « Moi qui suis si heureuse lorsqu'on parle de toi. Ces articles, je les sais presque par cœur, à force de les relire. Et pourtant Dieu sait si tu en as, toi, des articles. »
« J'en ai. Au moment où j'expose. Après, on m'oublie.
D'ailleurs, je déteste ce tam-tam. C'est grotesque. Penses-tu que l'on puisse t'oublier? Tu es célèbre pour tout de bon, toi. Mais aux pauvres glorieux comme moi, cette réclame constante est nécessaire. Elle les aide à gagner leur vie. C'est dur, tu sais, pour une femme, de gagner sa vie en travaillant, de maintenir sa vedette. Il faut constamment être en éveil, défendre pied à pied la malheureuse place que l'on a conquise. Ton prestige à toi est solide parce que tu as un vrai talent. C'est comme une maison bâtie avec de bons matériaux. Ça résiste. Mais nous autres, nous sommes pareils aux bâtisses de pacotille. Agréables à l'œil seulement. Il faut à tout bout de champ les reconsolider. Et quand elles le sont d'un côté, elles fichent le camp de l'autre. Elle s'excite, les yeux brouillés de larmes. Alors il la serre dans ses bras, s'attendrit avec une exagération maladive.
« Tu as un cœur exquis,
et tu as du talent, oui, vraiment, beaucoup de talent. Ton succès est très mérité, je t'assure. »
Il insiste trop.
Elle pense, « Il sent qu'il m'a fait de la peine. Il dit ça pour me consoler. » D'autres fois, elle s'irrite en constatant qu'il n'éprouve aucune satisfaction de la voir réussir. Des mots amers lui échappent. Il riposte par des reproches. À son tour, il l'accuse d'être égoïste, de se désintéresser de son travail à lui, de ne songer qu'à elle. Aveuglée de colère, elle est sur le point de lui crier ce qu'elle fit autrefois, ce qu'elle fait encore. Oh, bien sûr, il n'a nul besoin d'elle, mais tout de même, comme elle est vigilante à cultiver son prestige. Et si elle le voit inquiet, découragé, ne s'arrange-t-elle pas toujours pour qu'aux heures où il doute de lui, quelques lettres de fervente et anonyme admiration viennent lui rendre la confiance? Pourtant, elle sait retenir les mots qui pourraient le blesser trop profondément, quitte à soulager sa rage par un feu d'artifice de reproches à côté. Elle invente des griefs stupides, humiliés au fond de soi. Elle, lui faire cette scène de sotte petite bourgeoise. Et c'est lui qui triomphe.
Comme tu es de mauvaise foi.
À son tour, elle organisa une petite exposition. Le public vint, nombreux. Un journal envoya prendre une vue d'ensemble. Serval était là, mais au départ, elle le chercha en vain. Le soir, ils se retrouvèrent. Il avait son visage des jours orageux. Elle lui dit « Je ne m'attendais pas à avoir tant de monde. J'ai de la chance, vraiment. Et les journaux qui ont fait prendre des photographies ?» Aussitôt, il lui rapporta un propos malveillant, entendu sur elle. Des gens qui parlaient derrière lui, ne sachant pas qu'il la connaissait. Quand il dit « Non, je ne veux pas te répéter ça. » «
Si, voyons, ou alors il ne fallait rien dire. »
« Naturellement, c'est moi qui vais avoir tort. » Et brutalement, « Soit, puisque tu veux savoir, on dit que tu es la maîtresse de machin, et puis de choses, et c'est concevable qu'on dise ça. La réclame qu'ils te font est disproportionnée avec ton mérite. » Elle fit « Oh, oh !» et se tut, suffoquée. Il s'émut spontanément.
mon chéri, pardonne-moi. Oublie ce que je viens de te dire. C'est bête, stupide. Je n'aurais pas dû te répéter cette imbécilité. Et ce qui est odieux, oui, odieux, c'est de t'avoir dit que tu n'avais pas de talent. Tu as du talent, et beaucoup.
Ce jour-là, ils se réconcilièrent vite. Elle n'avait pas la force de regimber. Elle se blottit contre lui, tout endolorie, comme si elle eût reçu un coup. Par besoin d'être consolée, telle une toute petite fille qui a gros bobos.
Mais en revenant dans la voiture, elle remâcha ce qu'il lui avait dit, et, angoissée, elle se prit à douter d'elle. Il avait raison, ce qu'elle faisait ne valait rien. Un jour ou l'autre, la veine tournerait, on ne lui achèterait plus rien. Comment vivrait-elle? Quand même, il n'eût pas dû lui crier ça si cruellement. Quelle vilaine nature il avait! Toujours, toujours, son premier mouvement était de lancer les flèches empoisonnées. Elle aussi eût pu lâcher les mots qui assomment. Mais même au paroxysme de leur dispute, elle savait les retenir. Ah! Si elle pouvait se détacher de lui!
J'ai envie d'exposer au salon. Avec ton appui, je suis sûre d'être reçue.
Il l'encouragea.
Je crois bien. Ce sera excellent pour toi. Et je te guiderai, je te retoucherai. Il faut que ce soit parfait.
Elle travaillait dans un rêve. Un soir, elle dit à Serval, « Écoute, cela ne plaira peut-être pas, mais si tu savais avec quelle douce émotion je travaille. Cette machine champêtre, un peu coco, c'est toute mon enfance. Je suis ridicule, mais en évoquant ce gros marronnier d'Inde, je crois respirer son odeur âcre. Il me semble entendre les hannetons bourdonner autour et sentir, dans mes mains, les beaux marrons si luisants, si lisses au toucher, lorsque je les enfilais pour m'en faire des colliers. Figure-toi que ça me donne envie de pleurer. »
La veille de l'envoi au salon, pour une vétille, ils se querellèrent.
Il était d'une humeur massacrante. Nerveuse, impatiente, elle s'emporta. « C'est odieux de me faire une scène aujourd'hui. Je suis déjà assez tourmentée à cause de mon tableau. Tu n'as pas de cœur, pas de délicatesse. »
« Eh bien, puisque je n'ai pas de délicatesse, autant en profiter pour te dire que ton tableau ne vaut rien. Sache-le, s'il est reçu, ce sera par complaisance. »
« Que c'est misérable de me dire ça, à cette heure !»
Elle s'assit, toute pâle.
« Ma petite Gilberte, mon amour chéri, je suis une brute de t'avoir dit ça. Je n'en pense pas un traître mot. J'ai le cerveau malade. Je rage parce que moi aussi, j'eusse voulu envoyer quelque chose au salon cette année, et que je n'ai rien fait.
Mon petit Gilbert, pardonne-moi. »
Et soudain, elle comprit.
Cet homme de génie, ce maître illustre, qui pourtant n'avait plus rien à souhaiter, était jaloux. Jaloux d'instinct. Même ces pauvres miettes de succès dont se repaissent les indigents de la gloire, il souffrait de les leur voir distribuer.
Un rêve. Et parfois je rêve d'être une toute petite bourgeoise. J'habiterais aux Batignolles, j'aurais une salle à manger Henri II, une chambre en noyer ciré, avec une belle carpette à rosaces. Et ma cuisine, minuscule, serait reluisante. Mon mari irait à son bureau. Il serait comptable dans une maison de la rue du Sentier, ou caissier dans un contentieux. Consciente de mon devoir, je n'aurais d'autre souci que celui de le satisfaire. Le matin, un plumeau et un torchon à la main, le front ceint de bigoudi, j'astiquerai, je frotterai. Ensuite, avec soin, je préparerai le repas. L'après-midi, assise devant ma fenêtre, je ravauderai des chaussettes. Une fois par semaine, 2 heures, j'aurais une femme de ménage pour m'aider à faire de gros ouvrages, récurer mes 4 jolies casseroles de cuivre, et cirer le parquet. Quelquefois, rarement, j'irais inspecter les soldes dans les grands magasins. Et quand je trouverais une bonne occasion, je rapporterais, pour mon mari, des flanelles qui ne rétrécissent pas et des caleçons cachous. Pour moi, un bout de ruban Liberty, bleu ciel ou rose, que j'enfouirais au fond de mon armoire et dont je n'aurais jamais l'emploi. Le dimanche, je me promènerais au bras de mon mari important. Il regarderait, sans convoitise, les belles dames sanglées dans leurs cuirasses qui dissimulent seins et hanches, puis il tournerait un œil approbateur vers mes formes débordantes d'un mauvais corset. Je ne penserais à rien, je ne souhaiterais rien, la vie me paraîtrait bonne. De ci, de là, j'aurais pourtant un besoin de coquetterie. Alors je rafraîchirais ma robe d'il y a 3 ans, avec un empiècement de guipure crème, liséré de taffetas voyant, tout en songeant avec inquiétude que l'on a mangé 2 fois dans la semaine du navarin aux pommes, que mon mari pourrait s'en lasser, et que le moment serait venu de lui faire la surprise d'un bon bœuf à la mode, avec dedans un pied de mouton, comme il les aime. Quand mon mari rentrerait ou sortirait, il m'embrasserait sur les 2 joues. J'en rougirais, tremblant que les voisins d'en face ne nous voient, car s'ils nous voyaient, ils me tiendraient peut-être pour une dévergondée, et même, ils seraient bien capables de croire que nous ne sommes pas mariés. Je ferais grand cas de l'opinion de la crémière, et plus encore de celle de ma concierge. Je serais fière de savoir qu'elles disent en parlant de nous. Ce sont des gens très bien, elle ne sort jamais et lui rentre régulièrement à 7h30. Ils placent de l'argent pour leurs vieux jours. C'est un bon ménage, ils ne se disputent presque jamais. Je ne serai pas une ignorante, je lirai mes 2 feuilletons tous les jours et je saurai qu'il y a des écrivains de grand talent qui se nomment Pierre Salles, Pierre de Courcelles, Michel Zévaco. J'aurai lu Chaste et flétrie, le nom de M. Rostand ne me serait pas tout à fait inconnu. Mon mari m'aurait appris à l'admirer parce qu'il gagne beaucoup d'argent, et j'aurais d'ailleurs une broche Chantecler. Tout au fond de moi, cependant, j'aurais 2 grands secrets, et ils me tourmenteraient au point que j'en laisserais, de temps à autre, rissoler plus que de raison les lardons de l'omelette. J'aurais 2 grands désirs que je n'oserais pas avouer à mon mari, parce qu'il trouverait que ce n'est pas raisonnable. Je voudrais, pour la salle à manger, une suspension bronzée à 6 branches, avec des bougies vertes. Et pour moi, un jupon de satin rouge avec un volant de dentelle blanche, comme la Mercière en a eu un pour le mariage de sa sœur.
À qui la faute ? Ah, ma chère, que tu vas rire. Ne te moque pas trop de moi, si froide jusqu'alors, si invulnérable comme tu disais. Car j'étais tellement réfractaire aux réalités, ou si tu préfères, aux réalisations de l'amour, qu'à t'en croire, c'en était pis qu'un vice. Tu ne pouvais comprendre cela, toi, la parfaite amoureuse aux yeux brillants, aux lèvres naturellement rouges et humides. Tu as toujours jugé inutile d'épiloguer sur les subtilités du cœur. Certaines psychologies te fait sourire, te déroutent. Te rappelles-tu nos discussions sur les affinités de l'âme et la façon un brin trivial, mais si sincère, dont tu décrétais ? Tout ça, c'est des raisonnements de névrosés, de coupeurs de cheveux en 4. Ce qui doit s'adapter surtout, c'est la chair. Si de ce côté-là ça marche, le reste s'arrange toujours. Et aussi nos querelles sur l'esthétique masculine. Ah, Seigneur Dieu, qu'ai-je pris ? Avec quel dédain tu raillais mes goûts ? Oh, tu avais une façon de me dire, tu n'y entends rien de rien. Le type d'homme qui te plaît est justement celui du raté, de l'impuissant, du malade. Ça déjeune avec des poudres, et ça dîne d'un bouillon aveugle. Parbleu, c'est facile d'avoir le teint pâle et rien que la peau sur les os à ce régime-là. Parle-moi d'un homme à la carrure solide, au bel appétit et au sang riche. Et là-dessus tu plaidais avec chaleur la cause de Jean, mon vigoureux soupirant. Tu en arrivais à me démontrer que ma réserve devenait indécente, qu'il était grand temps d'en finir. Eh bien, je serais dans de jolis draps, c'est une façon de parler, si je t'avais écouté. Apprenez, madame, que je suis amoureuse, et donnez bien au mot tout son sens. Oui, parfaitement amoureuse. Cette grande flamme a jailli de mon cœur, non, pas seulement de mon cœur, de tout mon être, au beau milieu des rochers, dans le magnifique pays des légendes. L'objet de ma folle passion est un monsieur qui ne ressemble en rien au type d'homme qui me séduisait naguère. N'importe, je le trouve superbe et je l'adore. Ah, que tu avais raison, qu'il est délicieux, ce trouble né d'un regard, d'un frôlement, d'une pression de main. Et dire que j'ignorais cela, à mon âge. Et voilà que tout à coup, il m'a fallu une énergie sublime pour rester une honnête femme pendant 8 jours, moi qui trouvais tout naturel de l'être demeuré pendant des années. Note qu'il ne m'a fait aucune déclaration. C'était entre nous une sorte d'entente tacite et vraiment très cordiale. Nous logions tous deux dans l'unique hôtel de ce site magnifique, et dès que j'entendais son pas dans le couloir, le matin, car je reconnaissais son pas entre tous, vite, je dégringolais l'escalier et le rejoignais sur la terrasse comme par hasard. D'un air ingénu, nous poussions des exclamations de surprise admirablement feintes. « Non, déjà levé ! Comment, vous aussi ? Je vais au trou de l'enfer. Tiens, j'y allais justement. Vous voulez me permettre de vous accompagner ?» J'acquiesçais naturellement. Et comme c'était difficile de se diriger dans les rochers, je faisais semblant de trébucher. Lui qui n'attendait que ce geste me saisissait le bras et me soutenait d'une main à la fois tremblante et ferme. Ah ! Au contact de ses doigts crispés, il me semblait que soudain quelque chose de tiède et de très doux me coulait dans les veines. Mes yeux se fermaient malgré moi, tandis qu'une langueur étrange me prenait aux genoux et m'immobilisait. Alors on s'asseyait, l'un contre l'autre, sur un étroit rocher, ou bien dans le fauteuil de la Madone. Les guides ont ainsi baptisé une minuscule cavité dans laquelle s'élève une pierre en forme de siège. Au creux de cette caverne exiguë, protégée contre le soleil brûlant par le dôme de granit rose, je me sentais encore plus engourdie, plus grisée de bien-être. Qu'il y faisait bon dans ce gîte. J'ignore quelle sensation donne l'opium, mais je m'imagine quelque chose de semblable. À nos pieds, la mer jetait de gros bouillons d'écume qui grimpaient le long des rochers. Un goût d'iode et de sel irritait nos lèvres. La magnifique nappe glauque s'étendait devant nous à perte de vue, avec là-bas, au milieu, un petit point blanc surmonté d'une flèche minuscule. C'était l'île romanesque et son clocher, celle qui sans doute un jour disparaîtra avec ses habitants, comme d'autres villes d'alentour déjà ensevelies. Le relent de mystère qui s'exhale de ces parages surexcitait encore mon imagination. Je rêvais que nous étions les seuls survivants d'un équipage naufragé et que nous allions passer le reste de nos jours perdus, isolés du reste des humains, n'entendant plus que les mugissements des vagues et du vent. Je devenais une pauvre petite chose fragile et peureuse, réfugiée à tout jamais contre l'épaule de ce grand diable aux yeux envoûteurs. Pourquoi, dis, pourquoi n'est-ce pas Jean qui m'a initiée à ces sensations? Comme je restais calme, sans émoi près de lui. Pauvre Jean, j'ai envie d'employer tout de suite le moyen brutal, de tout lui révéler. À quoi bon le laisser espérer maintenant? Il vaut mieux lui faire mal, très mal, une bonne fois, et que ce soit fini. Il me prendra en horreur et ne s'en guérira que plus vite. J'attends l'autre, comme je suis fébrile à l'idée de le revoir, 8 jours que nous sommes séparés. Il devait poursuivre son voyage d'un côté opposé au mien, et il m'a demandé la permission de me rendre visite à son retour. On sonne, c'est lui. Est-ce possible? C'est cet homme-là que j'ai cru aimer? Mais c'est fou, je ne suis pourtant pas une détraquée. Alors quoi? C'était la faute du ciel nouveau, du soleil tendre, de la brise salée. Quand je suis entrée dans mon salon et que j'ai vu ce monsieur à la moustache conquérante, au large sourire fat, au port avantageux, on eût dit un viveur de mauvais ton, j'ai eu un mouvement de recul qu'il a paru deviner ou partager. Évidemment, la dame correcte, vêtue un peu sévèrement, sa coiffure sobre, l'ont beaucoup moins charmée que la voyageuse aux jambes nues, au corsage largement échancré et aux cheveux ébouriffés. Immédiatement, nous nous sommes sentis gênés et nous ne savions plus que dire. Il a émis quelques critiques sur mon quartier calme, lui n'aime que la plaine Monceau. Il regardait étonné mes vieux meubles qui probablement lui paraissaient insolites. Triomphalement, je lui ai montré un bibelot ancien rapporté de là-bas. En essayant de faire de l'esprit, il l'a déclaré horrible. Je parierais que cet homme aime le laquê, les brise-bises bleu ciel avec des entre-deux, les triples portes à petits carreaux et les peintures blancs crus sur les pâtisseries des affreuses maisons neuves. Nous avons encore échangé quelques banalités, mais lorsqu'avec soulagement nous nous sommes dit au revoir, nous avons bien senti, l'un et l'autre, que nous ne nous reverrions jamais. Ah, mon Jean, venez vite! Longuement je viens de regarder sa photographie. Il est très bien, Jean, tu avais raison. C'est curieux, je ne m'en étais jamais aperçu. Chut, approche ton oreille que j'y glisse un secret. Sa cause est gagnée, mais c'est égal, si jamais il savait quel avocat l'a plaidé.